95.7. Kick, Saguenay, le show du matin. Avec Dominique Fortin, Marc Diquet, Martin Thomas Côté
et Tania Clouston.
Chronique judiciaire avec Maître Julien Bouliane. Pour contacter Maître Bouliane,
542-8111. 542-8111.
Il est 7h56, Maître Bouliane, bon matin.
Bon matin.
Beaucoup, beaucoup de cas de ballon encore. Puis plus on se rapproche des fêtes, bien plus on va en avoir, évidemment, avec les parties de bureau. Et qu'est-ce qu'on propose pour limiter tout ça? L'antidémarreur éthylométrique à vie après une deuxième offense seulement.
Effectivement. À l'intérieur d'une fenêtre de 10 ans. Donc, à la SAC, eux, pour savoir si c'est votre première, deuxième, troisième, etc., c'est dans une fenêtre de 10 ans. Donc, si à l'intérieur de 10 ans, vous commettez une deuxième infraction, soit de faculté affaiblie par l'alcool, ou soit que vous aviez échoué une ivresse à mettre, à ce moment-là, la SAC va vous imposer, si vous voulez conduire un véhicule automobile, de faire installer l'antidémarreur éthylométrique à vie. Mm-hmm. C'est pas banal. Et à partir de 10 ans, donc, ce sera un minimum de 10 ans que vous aurez à avoir cet antidémarreur-là, vous pourrez vous adresser à la Cour du Québec pour demander une révision de ça, donc une levée de cette obligation d'avoir l'antidémarreur éthylométrique. Maintenant, quelle sera la procédure de façon précise? Je ne peux pas encore vous l'indiquer. D'ailleurs, on ne le verra pas avant minimum 10 ans, parce que forcément, si c'est à compter d'hier. Et c'est la date d'infraction. Hein? Il y a eu une certaine crainte pour des personnes qui étaient en attente de des dossiers de deuxième offense qui disaient parce que ça avait été voté en 2018, mais on attendait le décret d'entrée en vigueur. Mm-hmm. Donc, on savait que ça s'en venait, mais on ne savait pas quand exactement. Il y a certains clients qui savaient ça, qui nous disaient « Je pense que je devrais régler mon dossier pour éviter cette situation-là. » Mais il y a un régime transitoire qui fait en sorte que c'est à partir de la date d'infraction. Donc, tous ceux qui auront une deuxième offense à partir de hier se verront, s'ils sont reconnus coupables, imposer un antidémarreur à vie. Or que dans l'ancien régime, si on veut, c'était à partir de la troisième offense. Et ça, on parle des facultés affaiblies, ce que nous, on appelle facultés affaiblies simples, là, c'est-à-dire qui sont à plus de 80 mg d'alcool, mais en bas de 160, et qui ne sont pas des refus. Tout ce qui est en haut de 160 et des refus, c'était déjà le cas. Si c'est votre deuxième en haut de 160, c'était déjà l'antidémarreur à vie. Vous aviez la possibilité de demander après 10 ans aussi une exemption. Maintenant, si c'est votre deuxième en haut de 160, ce sera à vie, mais sans possibilité de demander d'exemption. Okay. Donc, ça sera véritablement à vie. Même chose pour à partir de la troisième offense.
Et l'antidémarreur coûte cher, là, parce que tu l'installes et calibres et régulièrement à tes frais.
Effectivement. C'est beaucoup moins cher que c'était. Là. On parle maintenant de moitié prix de ce que les prix étaient avant. Là. Un nouveau contrat que la SAC a signé là, sur un nouveau fournisseur. Mais oui, c'est des frais qui seront là tous les mois pour la vie. Et la vie, pour certains, ça peut être très court, mais pour d'autres, ça peut être très, 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 très long.
Mm-hmm.
Et donc, est-ce que ça a un impact réel? Bon, on va se le dire, là, des dossiers de faculté affaiblie, je le dis, il n'y en a pas moins. Les statistiques le montrent. Il y en a même plus. Maintenant, je le disais récemment, il y a aussi beaucoup plus de dénonciations citoyennes. Ça peut être la statistique trompeuse. C'est qu'on a l'impression que peut-être les gens commettent autant d'infractions, même s'ils commettent moins, c'est juste qu'ils sont plus dénoncés. Les gens n'hésitent plus du tout dès qu'ils voient un véhicule louvoyé ou quelqu'un qui part d'un bar ou d'un restaurant. Il y a beaucoup, je vous dirais que la majorité de nos dossiers, c'est une dénonciation citoyenne. Donc, un citoyen qui appelle les policiers. À ce moment-là, on procède à une interception. Si on constate des symptômes, on va enclencher la procédure. Donc, ça peut faire en sorte que même si les gens commettent moins l'infraction parce qu'il y a beaucoup de sensibilisation. Il y a encore beaucoup, beaucoup de dossiers parce qu'il y a beaucoup de dénonciations. Donc, c'est peut-être pour ça que je dis que la dénonciation est trompeuse. Sur les récidives, ils sont moins nombreuses, légèrement en baisse depuis les dernières années. Est-ce que les mesures, comme je le dis, depuis des années, tant au niveau du Code criminel fédéral qu'au niveau du Code de sécurité routière au provincial, ont durci à tous les 2-3 ans, là, il y a quelque chose. Les amendes sont plus sévères, les suspensions sont plus longues. Tout est de plus en plus sévère. Malgré tout, comme je le dis, il y a encore énormément de dossiers de faculté affaiblie parce que deux facteurs, et on en parle souvent, Dominique, ensemble, deux choses. Les personnes à jeun, tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, je connais personne qui me dit à soi, je prends une brosse, puis je prends mon char, puis
Non.
L'alcool étant ce qu'elle est, ça altère le jugement. C'est justement une raison pour laquelle c'est un crime de conduire lorsqu'on est en faculté affaiblie par l'alcool, parce que justement, on est dangereux. Ça altère notre jugement, ça altère nos réflexes, etc. Et c'est ce qui fait en sorte que des gens bien intentionnés à la base, lorsqu'ils sont en état de consommation, leur jugement est altéré et ils vont prendre cette mauvaise décision-là de prendre leur véhicule. Donc, d'une part, même s'il y a beaucoup de sensibilisation, on fait de la sensibilisation auprès de personnes à jeun parfaitement conscientes, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on altère notre jugement en consommant. Et d'autre part, c'est principalement, c'est que les gens ont l'impression qu'ils ne se feront pas prendre.
Exact.
Et c'est là-dessus, on met beaucoup d'efforts sur dire on va durcir le ton, on va durcir les peines, mais c'est pas parce que les gens... C'est déjà très sévère, là. C'est pas vrai que quelqu'un s'est dit « Ah, oh, moi, je vais continuer à faire des facultés affaiblies parce que de toute façon, à l'ivresse en maître, je l'aurais juste X nombre d'années. Maintenant que c'est à vie, je vais faire plus attention, je pense. Puis je commettais le crime parce que c'était 1 000$ d'amende en haut de 160. Maintenant que je suis rendu 2 000, je le ferai pas. » Je pense pas que ça soit là-dessus que ça joue beaucoup. C'est que les gens ont l'impression qu'ils ne se feront pas prendre. Donc, lorsqu'il y a beaucoup... Remarquez, dans le temps des fêtes, on annonce partout qu'il y a des barrages, qu'il va y avoir des barrages, qu'il va y avoir des barrages. Les gens font beaucoup attention durant cette période-là et peut-être que le reste de l'année ont l'impression qu'ils ont moins de chances de se faire prendre. Or que dans les faits, il y a, comme je le dis, il y a de plus en plus de dénonciations et de plus en plus d'opérations policières qui font en sorte qu'on arrête beaucoup de gens.
Mais parlons de business, là. Éventuellement, quand on prend des décisions comme là, c'est automatique, là. Le recours à l'avocat devient de tu sais, votre marge de manœuvre pour défendre un client devient de plus en plus mince, là. Tu sais, je veux dire, c'est quoi l'avantage à cette heure?
Il y a beaucoup de moyens de défense, effectivement, qui, avec le temps, se sont estompés, qui font en sorte qu'on en gagne quand même encore beaucoup. C'est pas parce que vous avez échoué une ivresse en maître que forcément toute la procédure est là puis qu'il n'y aura pas des choses qu'on peut regarder. Mais il y a beaucoup de choses qu'on fait sur la négociation des gens qui ont soufflé en haut de 160. Normalement, ça serait une suspension de leur permis de conduire s'ils sont reconnus coupables, même pour la première offense, de 3 ans plus 2 ans de condition X, donc un total de 5 ans de la machine. Nous, lorsque vous engagez un avocat, il y a la possibilité qu'on soit capable de ramener ça à 1 an. Donc, on parle d'un accord de 4 ans là, avec l'antidémarreur. Donc, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que c'est excessivement pertinent à tout le moins de consulter un avocat avec le dossier. Les dossiers de faculté affaiblie se ressemblent tous, mais sont tous différents. Et donc, il y a plein de gens qui rentrent dans mon bureau qui sont convaincus qu'ils sont coupables. On regarde ça ensemble. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut voir, qu'on peut faire en sorte qu'il y ait même des acquittements potentiels, mais surtout ceux qui ont des taux très élevés, d'essayer de ramener ça à une infraction qui serait une faculté affaiblie simple. Donc, ça demeure quand même excessivement pertinent de consulter un avocat ou avocate dans ce genre de dossier-là parce que les conséquences sont excessivement importantes dans le day-to-day, dans le monétaire, dans le permis de conduire en région. Là, c'est pas comme à Montréal. C'est essentiel, je dirais même. Donc, les conséquences sont tellement importantes que c'est important pour les gens de s'assurer d'avoir les conseils d'un avocat.
Le pot, ça fait plus d'un an que c'est légalisé. Est-ce qu'on commence à avoir une recrudescence dans les conduites avec facultés affaiblies ou pas tant?
J'en ai pas vu plus qu'avant. Non. Moi, personnellement, je dis pas... On en voyait quand même avant. On en voit encore aujourd'hui. C'est la même chose aussi des autres drogues. Là, on voit beaucoup, je dirais, de dossiers de GHB. Ce qui semble être quelque chose qui affecte beaucoup plus là, les fonctions motrices, qui font en sorte que c'est peut-être plus évident pour les policiers de constater les symptômes. T'sais, c'est la même chose. Il y a sans doute beaucoup de dossiers de faculté affaiblie par des méthamphétamines ou de la cocaïne, mais c'est pas évident pour les policiers de constater. Là. Ça prend quelqu'un qui en a pris, puis pas à peu près, pour que le policier dise « Oh, je suis en état d'arrestation parce que clairement, là, t'es pas en état de conduire. » Donc, il y a des drogues justement comme ça, que ça, c'est à petite quantité, même si théoriquement vous êtes faculté affaiblie, ça devient difficile pour les policiers de vous arrêter. Même chose pour le cannabis. Mis à part les yeux rouges, quelqu'un qui est habitué d'en fumer, peut-être qu'il est en état de consommation puis qu'il sera en état de faculté affaiblie, mais c'est difficile à percevoir pour le policier avec les outils qu'ils ont présentement. Mais on sait que les policiers, les services de police vont s'équiper petit à petit et vont faire en sorte de pouvoir procéder à des arrestations de personnes qui dépassent la quantité de THC dans le sang.
En terminant, hier, quelque chose que j'ignorais, il y a des annonceurs internationaux et de grands annonceurs sur le site Internet Pornhub, qui est un site pour adultes.
Ce site-là?
Qui est Pornhub, connais pas?
Non, connais pas.
Bon, basé à Montréal, qui publie annuellement ses statistiques, là, puis on voit que... Hein? La plupart des gens y sont déjà allés, ils font semblant de ne pas le connaître. Mais ce que je savais pas, d'abord, c'est que les grands annonceurs existent là-dessus, qu'ils se retirent maintenant parce qu'ils ont peur d'être associés à des cas de pornographie juvénile. Il semble-t-il qu'on en a retrouvé sur ce site-là qui se dit grand public. Alors, pour le commun des mortels qui fréquentent des sites comme celui de Pornhub, YouPorn, ou tout ce qui s'appelle site très, très gratuit pour adultes, normalement légal, y a-t-il un danger?
Ben, le danger existe, mais c'est excessivement minime. Faut le dire, je pense que dans ce qu'on a dans l'article, on parlait qu'il y a des associations qui, justement, vérifient s'il n'y a pas de la pornographie juvénile sur ce genre de site-là et qui arrêtent recenser une quarantaine de cas. Là, on parle de des 2019. Centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de vidéos, à part les lives qui sont faites sur ces sites-là. Donc oui, sur le lot, est-ce que cette possibilité-là existe? Je vous dirais que ça doit même exister sur Instagram, là. Parce qu'Instagram, oui, on va finir par les enlever, mais est-ce que pendant une certaine période de temps, il peut y avoir des choses? S'il y a une jeune fille de 10 ans là, qui arrive et qui se met tout nu sur son Instagram, avant qu'Instagram intervienne, il y a un délai. Même chose pour YouTube, même chose pour tout. Donc, ce risque-là, zéro, n'existe pas nulle part. Mais sur ces sites grand public-là, là, pour quelqu'un qui va là, est-ce qu'il y a des chances que lui, s'il consulte une vidéo d'une personne qui semble adulte, puis finalement, on fait « Ah! Ah! Elle avait 17 ans, puis qu'on voudrait procéder à son arrestation. » Le risque est très, très, très minime. Parce qu'il y a, dans le cas de criminel, quand même ce qu'on appelle la défense sincère mais erronée sur l'âge de la personne. Parce que si vous couchez avec une dame qui a de l'air de 36 ans, que vous avez rencontrée dans un bar, puis que vous apprenez qu'elle avait 17 ans, mais que vous aviez pris tous les moyens raisonnables, puis que non seulement vous avez pris les moyens raisonnables, mais dans le contexte, ça paraissait parfaitement raisonnable que cette personne-là soit adulte, bien, vous avez un moyen de défense. Et c'est la même chose. Si vous allez dans un bar de danseuse, vous n'allez pas commencer à rentrer. Moi, je ne suis jamais allé, je ne sais pas vous les gars, là, mais...
Vous non plus.
Si vous allez dans un bar de danseuse, là, on extrapole. Là. Prenons la situation
large.
Que vous décidez d'aller dans un bar de danseuse, vous n'allez pas commencer à l'écarter, celle qui est en train de danser, pour vous assurer qu'elle a 18 ans. Parce que le contexte fait en sorte que vous savez que normalement, la personne qui danse là, sans doute, on a sans doute vérifié son âge, les propriétaires, etc. C'est la même chose sur le site Internet, où justement, les YouPorn, les Pornhub, etc., mentionnent que ceux qui ont des comptes privés ou qui peuvent faire des lives ou qui peuvent mettre des vidéos, on s'est assuré avec des cartes, des pièces d'identité qu'ils avaient 18 ans. Donc, à la base même, vous avez une défense de dire « Je vais sur des sites grand public justement parce qu'on me dit qu'on s'assure que tout le monde a 18 ans. » On n'est pas dans les sites pédophiles puis on n'est pas dans le dark web. Et là-dessus, c'est pour ça que je dis que le risque est quasi minime que vous soyez accusé de quoi que ce soit.
Mais de toute façon, j'imagine que tout est dans la recherche aussi. Là. Si on recherche...
Sauf que, c'était ma prochaine question... Tu sais, dans les recherches, je veux dire, les titres des films aujourd'hui, moi, ça, personnellement, me laissent mal à l'aise. Ouais, mais... Et surtout avec les traductions françaises où le mot « teen » systématiquement, qui est suremployé dans le langage américain, devient adolescent.
Ouais, mais là, tu dis,
non, on ne veut pas voir ça. Mais c'est parce que quelqu'un... mettons que le procureur est bien acharné après toi. Puis là, il dit bah, « ben, votre historique de visionnement, c'est stepsister, college dorm... » teen, là, clairement, vous avez une préférence.
Oui, mais attends un peu, l'infraction criminelle, c'est la possession de pornographie juvénile. Si je me trompe pas, en streaming, de regarder de la pornographie juvénile, c'est une infraction criminelle?
C'est une infraction accédée. Il y a différentes, là.
OK.
Il y a d'avoir possédé, distribué, d'avoir accédé. On a prévu le coup, sinon ce serait trop facile. Tout le monde, personne, arrêtez de downloader les vidéos. Mais je pense qu'on ça, on faisait 198-2000, ouais. Downloader la photo pour l'avoir.
Parce que souvent, ceux qui comprennent, c'est ceux qui ont de la... qui en ont dans
oui,
leur ordinateur.
Oui, c'est ça. Effectivement. Parce que généralement, il faut comprendre là, que la pornographie juvénile, là, on a parlé d'un potentiel cas où des gens y en ont retrouvé, là, mais c'est pas là-dessus que les policiers vont faire des enquêtes. C'est sur des réseaux, expressément des sites comme ça, là, un peu dans le style du dark web, là, où c'est carrément des sites qui sont underground, dans lesquels il y a de l'échange de fichiers. Et c'est pour ça que c'est du upload et du download, et c'est pour ça que les personnes se retrouvent en leur possession. C'est pas comme du streaming ou sur, justement, un YouPorn où les vidéos sont là sur le site. Ça existe aussi sur ce genre de site-là, mais de façon générale, c'est des gens qui s'envoient des vidéos, et donc, généralement, ils l'ont en leur possession, ce qui fait en sorte que lorsqu'on les policiers procèdent à la perquisition de leur on va trouver ces fichiers-là, mais on va aussi trouver les traces d'avoir accédé à ce type de fichier-là. Donc, il ne suffit pas pour quelqu'un de dire « Je ne l'ai pas downloadé dans mon ordinateur pour faire en sorte qu'il ne soit pas possible de l'accuser parce que le simple fait qu'il y ait accédé est une infraction également. »
OK. Merci beaucoup, Maître Bouliane.
Ça fait plaisir.
Il est 8h09. Nouvelles dans quelques minutes.
Chronique judiciaire avec Maître Julien Bouliane. Pour contacter Maître Bouliane,
542-8111. 542-8111. On revient tout de suite après la pause. 95.7, Saguenay. Le show du matin.